Bonjour. Saint est le Seigneur, trois fois saint. Est-ce que vous avez remarqué ce beau chandelier qu'on a eu qui a brûlé pendant toute la louange? Dora nous a parlé de ce chandelier et de cette lettre dans l'Apocalypse aux sept églises où le Seigneur Jésus écrit et qu'il appelle les sept églises les chandeliers. Ça montre à quel point la lumière brille sur les églises, brillait sur les églises d'Asie de l'époque. L'Apocalypse qui nous vient du grec apocalypsis et qui veut dire la révélation, qui veut dire ôter le voile. Lorsque Jésus souffle cette lettre à son apôtre Jean, il veut écrire à chacune des églises, mais en même temps que toutes ces lettres circulent. Toutes ces lettres ont été lues dans chacune des sept églises. Elles sont lues à voix haute, donc tout le monde est au courant. Tout le monde sait ce qui se passe. Ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui ne fonctionne pas, tout le monde le sait. Ces lettres sont aussi prophétiques. Elles nous parlent aussi de la période de la chrétienté depuis et jusqu'à aujourd'hui. À travers ces lettres, le Seigneur Jésus a souhaité nous informer, nous prévenir de ce qui pourrait arriver si nous ne sommes pas fidèles à sa parole et à qui il est. Au mois de novembre, je suis venue vous parler déjà de l'Apocalypse et je vous ai justement expliqué les sept chandeliers qui représentent les sept églises et les sept étoiles que Jésus tient dans sa main qui représentent les autorités des sept églises. Dans la lettre d'Éphèse, je vous ai expliqué comment on voit une image positive parce qu'elle s'était séparée du mal et elle avait persévéré. Mais nous avons vu également le point négatif. L'église d'Éphèse avait abandonné son premier amour. Elle s'était éloignée du cœur de Jésus. D'ailleurs, il leur dit, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. » Et Jésus a invité cette église à écouter ce que l'Esprit dit aux églises. La deuxième église que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse, c'est l'église de Smyrne, dans Apocalypse 2. Nous avons là le tableau d'une église en souffrance. Smyrne représente la période durant laquelle les chrétiens ont été persécutés jusqu'à la mort par Satan. Il a utilisé les Romains pour essayer d'éradiquer l'église chrétienne. À l'église de Smyrne, le Seigneur n'a fait aucun reproche. Elle avait continuer, persévérer, malgré la persécution, malgré la mort. Alors le Seigneur l'encourage. L'église de Smyrne est devenue la semence de l'église suivante, qui est l'église de Pergame, qu'on trouve dans Apocalypse 2 aussi. Cette église-là nous montre la période où l'église est devenue une église d'État, où elle s'est pour ainsi dire mariée avec le monde. Et bien qu'au verset 13, il est écrit qu'elle a persévéré dans la foi en Jésus. Un peu plus loin, le Seigneur lui dit, « Je connais tes œuvres. Je sais l'endroit où tu es établi. Là est le trône de Satan. » Et au verset 14, il lui répète, « Là où tu es, est établi le trône de Satan. » C'est à cette même période que les fêtes chrétiennes et les fêtes païennes se sont mélangées. Et que beaucoup de coutumes païennes sont devenues des coutumes et des fêtes chrétiennes. Elles sont rentrées dans un compromis, et c'est ce compromis que Jésus leur reproche au verset 14 et 15. Les gens attachés à la doctrine de Balaam et celle des Nicolaïtes. Après cela, Jésus les encourage à se repentir. Ensuite vient l'église de Tillard. Elle représente l'église du Moyen-Âge, celle qui a commencé aux environs de l'an 600. Dans cette église, le Seigneur a vraiment reconnu l'amour, la foi, la persévérance et son service. Pourtant, malgré toutes ces bonnes choses, ils ont laissé rentrer parmi eux l'immoralité sexuelle, la fornication spirituelle. Et Jésus leur fait des reproches avant de leur conseiller de changer d'attitude et de se repentir. Il leur dit « Écoutez, écoutez ce que l'Esprit dit aux églises. » Ensuite vient l'église de Sardes. Là, nous avons l'état du protestantisme dans les temps qui ont suivi la réforme. Les caractéristiques de cette période, c'est l'absence de vie spirituelle. Jésus leur dit, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Et il rajoute, affermis le reste qui est en train de mourir. Au verset 4, il dit que quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements marcheront avec lui. Nous voyons dans cette église deux catégories de chrétiens. Ceux qui sont vivants, qui marchent avec le Christ, et ceux qui sont là par habitude, par tradition, et qui sont morts. Dans une même assemblée, les deux sortes de chrétiens sont représentés. Le Seigneur les encourage. Il les encourage à veiller et à garder la parole. Il leur dit que le jugement viendra sur eux comme un voleur. Soudainement. Ensuite arrive l'église de Philadelphie. Celle-ci représente la période bénie du réveil au sein de la chrétienté. Son nom, Philadelphie, signifie l'amour fraternel, l'amour des frères et sœurs. Cette église-là a commencé dans la première moitié du 19e siècle. Elle est caractérisée par une grande fidélité, par un grand amour des chrétiens pour le Seigneur Jésus et pour sa parole. Durant cette ère, les chrétiens ont réalisé des vérités de l'Écriture qui, dans les siècles précédents, étaient tombées dans l'oubli. Ils les ont réalisées et ils sont allés les porter partout dans le monde. Et des centaines et des milliers de personnes partout dans le monde se sont converties. Les gens ont redécouvert la parole de Dieu. La communion fraternelle de cette église était la base, elle était le socle. Ils étaient construits dessus. Cette église était située sur une zone frontière, comme nous. Juste à la limite du plateau avec l'Asie centrale. Cette assemblée avait gardé patiemment la parole et elle n'a pas renié le nom de Jésus. Le Seigneur ne leur fait aucun reproche. Au contraire, il leur fait des promesses. Il leur dit qu'il les gardera à l'heure de la tribulation. Il les encourage en leur disant « Je reviens bientôt ». C'est une promesse qu'il leur fait. Il leur dit aussi qu'il va faire d'eux des piliers dans le temple et qu'il écrira sur eux le nom de Dieu. Est-ce que vous imaginez être une église qui est un pilier du temple et sur laquelle Dieu va écrire son nom? Ça fait envie, hein? Arrive en septième position l'église de Laodicée, celle dont je suis venue vous parler spécialement aujourd'hui, parce que je ne vous ai pas encore tout dit. Laodicée qui signifie la justice du peuple. Cette église-là représente la chrétienté dans sa dernière phase, donc l'église actuelle. Cette lettre a une signification tout à fait particulière parce qu'elle met les chrétiens en garde contre les traits de caractère qui sont si abominables aux yeux du Christ. Et nous allons la lire dans Apocalypse 3, 14, 20. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Combien j'aimerais que tu sois froid ou bouillant. Mais parce que tu es tiède, parce que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, le Seigneur, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. sur le fond complètement sombre de ce tableau que représente la lettre à l'église de Laodicée, nous pouvons y remarquer trois manières dont le Seigneur Jésus se présente. Il dit d'abord « Je suis l'Amen », ce qui signifie « en vérité ». Si on utilise ce mot au début d'un discours, il signifie « en vérité ». Si on l'utilise à la fin, il signifie « ainsi soit-il », une confirmation « ainsi soit-il ». Toutes les promesses de Dieu trouvent leur confirmation et leur sûreté dans le Seigneur Jésus le Christ. Il est pour ainsi dire le dernier mot de Dieu parce qu'il est son Amen. C'est par le Christ que Dieu réalise toutes les promesses qu'il a faites depuis la création. Le deuxième nom que le Seigneur utilise, c'est le témoin fidèle et véritable. Être témoin signifie être le spectateur de quelque chose. Dieu ne pouvait pas laisser le monde sans témoin. Alors, il a envoyé un témoin fidèle et véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le témoin que Dieu a envoyé, autant dans sa vie que dans sa mort et dans sa résurrection. Jésus est resté fidèle parfaitement à Dieu. L'Église devrait être ce témoin fidèle du Christ. Elle devrait pouvoir répandre la lumière divine et bénissante que le Christ a posée sur elle. Le chandelier a brûlé pendant toute la louange. L'Église devrait pouvoir briller jusqu'à la fin, jusqu'au retour du Christ. Le troisième nom que le Seigneur a pris, c'est l'auteur de la création. Cela signifie qu'il est le point de départ de tout ce que Dieu a fait et de tout ce qu'il fera. Le Christ n'est pas seulement l'aboutissement de toutes les pensées de Dieu. Il n'est pas seulement l'Amen, il est aussi sa première pensée. Il est le commencement de toute la création. L'Épître aux Colossiens nous dit que toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Il est le début et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Il est celui qui est, celui qui était et celui qui sera. Si les chrétiens au cours des siècles avaient retenu fermement l'idée que le Christ est le début et la fin, qu'il est le seul chemin qui conduit du début jusqu'à la fin, si nous avions retenu l'enseignement que Jésus a donné aux disciples, l'église de Laodicée ne se serait jamais trouvée dans l'état où elle était. L'église d'aujourd'hui ne pourrait pas se trouver dans l'état où elle est. Nous vivons dans un monde et dans une époque où le peuple écoute la voix des bonimenteurs en tout genre. La voix de ceux qui leur promettent de leur donner le monde. On entend ça, hein, les hommes politiques qui disent « Je vais vous donner tout ce que vous voulez. » Puis après, le peuple manifeste parce qu'ils n'ont rien eu. Le monde passe des pactes en tout genre avec des tas de dieux. L'argent, le pouvoir, le sexe, les médias, les voyages, tout. Mais qui écoute encore réellement la voix de Dieu? Qui s'appuie encore sur les promesses de Dieu pour se lever le matin, pour programmer sa journée et pour aller de l'avant? Combien de chrétiens et combien d'assemblées ont encore une confiance aveugle en lui? Combien d'assemblées lui appartiennent encore réellement et n'appartiennent à personne d'autre? Dans l'église de Philadelphie, les chrétiens n'écoutaient pas la voix du peuple, mais seulement celle du Seigneur. Jésus leur dit « Tu as gardé ma parole ». Pour cette église, Dieu a ouvert en grand les portes pour la propagation de l'évangile. Des multitudes et des multitudes se sont converties. Par la mise en pratique de leur amour fraternel, ils ont constitué un témoignage puissant du véritable esprit de Dieu. Les actions et les pensées de l'église de Philadelphie ont été guidées par l'attente du retour du Seigneur Jésus. Il leur avait promis qu'il reviendrait. Ils y ont cru. Alors ils ont évangélisé. Ils ont été partout où ils pouvaient aller pour qu'un maximum se convertisse avant ce retour. L'église de Laodicée, quant à elle, présente le contraste le plus complet avec celle de Philadelphie. Elle est entrée dans une indifférence qui l'a conduit à la tiédeur. L'église de Laodicée était construite pas très loin de sources chaudes, comme des fois quand on va au bain. Et puis, ils avaient fait un aqueduc depuis les sources pour amener l'eau dans la ville de Laodicée. Donc l'eau, elle arrivait là dans la ville, ils avaient fait des bassins, ils se baignaient et tout, ils utilisaient cette eau et ils la buvaient aussi. Et même si l'eau avait parcouru les aqueducs, quand elle arrivait, elle n'était pas froide, elle était tiède. Donc ils buvaient de l'eau tiède. Imaginez-vous en train de boire l'eau tiède, c'est pas terrible, hein? Eh bien, l'église de Laodicée, elle était comme ça, elle était tiède, comme l'eau qu'elle buvait. Elle n'avait ni la froideur d'un rejet direct du Seigneur, ni la chaleur d'une réelle affection pour lui. Elle maintenait extérieurement le nom du Christ, elle professait être chrétienne, mais elle n'avait pas ce cœur profond de celui qui porte réellement son nom. L'indulgence et la tolérance étaient placées au plus haut niveau de l'échelle de valeur de l'église de Laodicée. Elle supportait avec un cœur large même le mal. Elle était apathique, indigente, et elle n'avait plus cette ardeur pour le Seigneur. Elle avait la lumière de la connaissance de l'Évangile. Elle le professait, mais elle s'éteignait petit à petit. Elle était en vie, mais elle était non vivante. Seul un petit lumignon brûlait encore. Elle n'était pas comme des chardons ardents qui brûlent et qui s'enflamment et qui enflamment tout autour d'eux. Elle n'avait en son sein ni zèle pour ce qui plaît au Seigneur, ni rejet de ce qui le dénigre. Elle portait un regard indifférent, aussi bien vis-à-vis du vrai bien que du vrai mal. Elle était tiède. C'est tout cela qui a déplu au Seigneur Jésus. Et c'est pour ces raisons qu'il leur dit qu'il va la vomir de sa bouche. Moi, quand je lis ça, quand je lis que le Seigneur va vomir les chrétiens de sa bouche, eh bien, ça me remue, hein. Je me remets en question. Et je me demande où j'en suis. Parce que, hélas, l'église de Laodicée est l'église des derniers temps. Nous sommes dans l'église des derniers temps. Le caractère principal de la chrétienté d'aujourd'hui, c'est justement sa tiédeur. Les églises chrétiennes d'aujourd'hui, toutes dénominations confondues dans le monde entier, ont tendance à fonctionner sur le schéma de celle de Laodicée. Elles ne s'opposent plus au péché en tout genre. Elles acceptent le compromis. Elles sont charnelles, avec un petit peu de spiritualité, et non pas le contraire. Le Christ n'y est plus apprécié à sa juste valeur. Notre Seigneur, le Christ, le Fils de Dieu, n'est plus réellement aimé pour qui il est. L'Église de Laodicée et toutes les suivantes depuis ont oublié que le Seigneur est l'auteur de la création. Qu'il est celui qui prend soin de nous, même quand nous sommes misérables, pauvres, malheureux, aveugles, nus et pécheurs. Il nous aime quand même et il prend quand même soin de nous. Nous oublions qu'il est celui qui nous recouvre d'un vêtement blanc, qui est le symbole de sa justice et de son pardon. Nous oublions qu'il est celui qui veut nettoyer nos vies des scories et de toutes ces choses charnelles qui nous tiennent prisonniers. Que c'est pour cela qu'il nous conseille d'acheter de l'or auprès de lui. Parce qu'il veut nous purifier nos êtres, purifier nos églises, afin que nos vies et que nos assemblées soient à sa gloire. Nous oublions qu'il est celui qui veut mettre un collier sur nos yeux, souhaitant ôter le voile de notre incrédulité et de notre aveuglement. Nous oublions qu'il est celui qui nous corrige par amour, Parce qu'un père, par amour, corrige ses enfants quand ils sont dans le mauvais chemin. Nous oublions que le Christ est le témoin fidèle et véritable et qu'il est l'amen de Dieu depuis avant même la création et qu'il le sera jusqu'à la fin. Alors, dès aujourd'hui, bien-aimés, écoutons celui qui dit à son Église que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Il a pris soin de nous prévenir par ses lettres, alors ne soyons pas sourds à sa voix. Écoutons-la avant qu'il ne soit trop tard, car son jugement va commencer par la maison de Dieu. Son jugement va commencer par les Églises. Les Églises seront d'abord jugées afin de pouvoir juger le monde après. Alors acceptons le conseil qu'il nous donne. Ayons du zèle et osons nous repentir. Dieu appelle ses enfants perdus, ceux qui sont en train de s'éteindre, ceux qui sont tièdes, à revenir. Il appelle l'Église, son Église, à se repentir et à revenir à lui. Jésus veut une Église victorieuse. Il vient chercher une épouse apprêtée, revêtue de vêtements blancs, prête à le recevoir en tant qu'époux. Quand on va se marier, nous, en tant qu'hommes et femmes, qu'est-ce qu'on fait? On se fait beau, on met le beau costume, on met la belle robe, on se coiffe bien, on se maquille, on cire les chaussures. Et toute l'assemblée qui vient au mariage se fait beau. Il ne nous viendrait pas à l'idée d'aller se marier en haillons, avec des sacs de patates sur la tête. On s'apprête, on se prépare pour aller au mariage. Le Christ attend une Église apprêtée, habillée, pour le recevoir, et non pas une Église tiède. Car une Église tiède s'éloigne de Dieu. Il ne veut pas d'une Église qui, par ses compromis, vivrait dans les ténèbres et non pas dans sa lumière. Lui, ce qu'il veut, c'est une Église bouillante. Une Église fidèle à sa parole, fidèle à sa voix. Une Église qui entend la voix du Christ quand il nous parle. Une Église qui le servira jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Qui aura le cœur embrasé d'amour pour son Seigneur et son Sauveur. Le Christ se tient à la porte. On dit qu'il frappe à la porte, mais en vérité, il se tenait à la porte. C'est-à-dire qu'il était sur le perron de la maison et il appelait. Mais il était Jésus, alors il criait pas hé ! Il appelait les gens par leur prénom. Et les gens répondaient. Ceux qui entendaient encore sa voix répondaient. Il se tient à la porte de nos maisons, de nos vies, de nos assemblées. Alors ne le laissons plus à la périphérie de nos existences, de nos êtres, de nos cœurs. Ne le laissons plus à la porte. Entendons sa voix nous appeler. Ouvrons ou réouvrons-lui la porte de nos cœurs, la porte de nos êtres, la porte de nos vies, la porte de nos maisons, la porte de nos églises. Ouvrons-lui la porte et osons nous repentir de tout ce qui nous rend tiède, de tout ce qui nous détourne de lui. Ne gardons plus le moindre petit péché, la moindre chose qui pourrait nous éloigner ou qui nous éloigne de lui. Osons nous repentir du manque d'amour, du manque d'obéissance, du manque d'intérêt que nous avons vis-à-vis de lui. Réinvitons-le et laissons-le entrer. Osons nous approcher bien plus près de lui encore, au point de ne faire plus qu'un avec lui. Osons, et que le feu de son si grand amour embrase nos vies et nos êtres. Devenons enfin les lampes brûlantes que nous sommes censés être parce que illuminés de son amour. Soyons ces lampes qui éclaireront le monde autour de nous en vivant et en portant sa parole et son message d'amour Il est le Christ de Dieu, le Fils ressuscité. Amen. Amen. Nous allons prendre un temps de prière. C'est le temps d'ouvrir notre bouche et de déposer au Seigneur tout ce que nous avons à déposer. Seigneur, merci. Merci de ta parole, merci de tes mots par lesquels tu nous invites, par lesquels tu nous préviens. Merci de ta parole, Seigneur, et merci aujourd'hui particulièrement d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos pensées, d'ouvrir nos êtres, Seigneur, afin que nous puissions particulièrement dans ces moments répandre nos cœurs devant toi. Que nous osions regarder tout ce qui dans nos vies n'est pas à ta gloire et tout ce que nous devons et pouvons te déposer, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à ne plus avoir honte, mais à oser tout déposer afin de devenir ces lampes que tu veux que nous soyons. Amen.